Tu lis quoi, toi? Vous lisez quoi, vous? Nous lisons quoi, nous?
Depuis l'étagère, les livres appellent. Ils hurlent, ils pleurent, ils crient. Debout ou couchés, ils se rebellent. Une confrérie en furie. Ils disent « Prends-moi, touche-moi, on n'a plus de patience, caresse-moi, chéris-moi, lis-moi, t'auras une récompense. » Si prometteuse, cette planche de bois, pleine d'aventure et de sagesse, « Vas-y, choisis-moi. Je te donne toute ma richesse. » Ce petit poème d'introduction s'appelle « Étagère » et il est tiré du recueil « Dans ma petite maison » de Suzy Morgenstern. Suzy Morgenstern qui est la dernière lauréate, il n'y a pas très longtemps, de la Grande Ourse à Montreuil, exactement, et qui écrit de la poésie depuis des années et des années. Qui n'en a pas publié tant que ça.
Non.
Et donc elle rentre dans la collection Enfance et Poésie chez Gallimard. Mmh. Donc on voulait lui rendre ce petit hommage. Et oui, bien sûr, vous écoutez la nouvelle émission « Dans l'Iquanou », l'émission de toutes les littératures de jeunesse. Je suis évidemment accompagné de la grandissime, la célèbre Madame Véro. Bonjour Véro.
Bonjour Monsieur Simon.
Et aujourd'hui, je suis également avec Monsieur Philippe à la technique, comme d'habitude. Alors vous me direz, c'est très étonnant. Normalement, vous êtes trois.
Oui.
Eh bien,
oui.
Nous sommes un peu trois, puisque
d'une certaine façon.
Nous aurons une grande invitée. Effectivement, nous avons rencontré une autrice, Hélène Lenoir, qui nous a fait le plaisir de nous donner une petite interview. Alors, elle n'est pas dans les studios, mais elle est quand même avec nous, et on va entendre sa voix. Donc, on aura une longue interview avec elle. Donc c'est pour ça que nous sommes en effectif réduit aujourd'hui. Alors évidemment, comme d'habitude, pour ce mois de mars, pour ce beau mois de mars, on va parler de littérature, de jeunesse, des albums pour les petits, des albums pour les grands, des albums CD. On va lire des albums, on va présenter des romans, on va présenter de la BD. Enfin bon, on va passer une très bonne émission.
Tout ce qui fait la saveur de la littérature jeunesse.
Et puis surtout, on va s'aérer l'esprit parce qu'en ce moment, on en a bien besoin.
Oh là oui.
Hein. Et ben, on va commencer avec de la musique comme d'habitude. Vous savez qu'on a toujours un petit focus dans l'émission autour soit d'un festival, soit d'une programmation. Cette fois-ci, on a choisi de mettre en avant le festival Les Foins de la Rue. Les Foins de la Rue, c'est un festival qui existe depuis des années et des années à Saint-Denis-de-Gâtine. Je ne dis pas ça parce que je n'ai plus la date. Hein.
Mais il y a un petit peu de ça.
Donc Saint-Denis-de-Gâtine, Saint-Denis-de-Gâtine, petit village en Mayenne, accueille depuis des années l'édition donc des Foins de la Rue, Les Foins de la Rue. C'est un festival qui fait vraiment partie du patrimoine de la musique en Mayenne. Ça s'est créé à peu près en même temps que les Trois Éléphants à Lassay à l'époque. Et les deux se sont créés un peu sur des modèles différents, mais tout aussi importants. Et cette fois-ci, ils reviennent les 4 et 5 juillet. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la programmation grand public, c'est-à-dire que vraiment les artistes les plus connus. Mmh. Et on va commencer tout de suite avec les Ogs de Barbac. Les Ogs de Barbac qui reviennent avec La Rue qui est à nous. Ils sont venus déjà il y a très longtemps et donc c'est leur grand retour. Donc pour se faire plaisir, on écoute l'un de leurs tubes qui s'appelle « Au café du canal ».
Chez la jolie Rosette au café du canal, sous le tronc du tilleul qui ombrageait le bal, on pouvait lire sous deux cœurs entrelacés, ici on peut apporter ses baisers. Moi mes baisers, je les avais perdus, et je croyais déjà avoir tout embrassé, et je ne savais pas que tu étais venu, et que ta bouche neuve en était tapissée. La chance jusqu'ici ne m'avait pas souri, sur mon berceau les fées ne se penchaient pas beaucoup, et chaque fois que je tombais sur un carré d'ortie, il y avait une guêpe pour me piquer dans le cou. Pourtant ma chance aujourd'hui elle est là, sous la tonnelle verte de tes cils courbés, quand tu m'as regardé pour la première fois, ma vieille liberté s'est mise à tituber.
Nous nous étions seuls au monde dans ce bal populeux. Et d'une seule main, je prisonnais ta taille. Tes seins poussaient les plis de ton corsage bleu. Ils ont bien failli gagner la bataille. J'aime le ciel parce qu'il est dans tes yeux. J'aime l'oiseau parce qu'il sait ton nom. J'aime ton rire et tous ces mots curieux que tu viens murmurer au col de mon veston.
Et je revois tes mains croisées sur ta poitrine, tes habits jetés sur une chaise au pied du lit. Ton pauvre cœur faisait des petits bonds de sardine quand j'ai posé ma tête contre lui. Dieu, tu remercies Dieu, ça c'est bien de toi. Mais mon amour pour toi est autrement plus fort. Est-ce que tu aurais pu dormir auprès de toi pendant toute une nuit sans toucher à ton corps? J'ai la jolie rosette au café du canal, sous le tronc du tilleul qui ombrageait le bal. On pouvait lire sous deux cœurs entrelacés. Ici, on peut t'apporter ses baisers.
Et les ogres de Barba qui seront accompagnés donc avec La Rue qui est à nous, donc, puisqu'ils ils avaient fait des tournées déjà ensemble il y a très longtemps. Les ogres de Barba, c'est un groupe qui a été créé en 1994 exactement. Vous savez, ces membres qui sont tous c'est des frères et sœurs qui ont constitué la base du groupe. Chacun multi-instrumentiste, c'est pour ça que sur scène c'est toujours assez impressionnant, ils changent d'instrument et tout. Et donc là, on les retrouvera avec La Rue qui est à nous, avec lequel ils ont tourné. Et j'ai regardé, c'est la 24e édition des Foins de la Rue.
D'accord.
Quand même, hein.
Ouais, quand même.
Quand même. Et donc voilà, on va balayer un peu des grands noms de la programmation, et puis on viendra dans une prochaine émission sur des artistes un petit peu moins connus. On n'a qu'à passer tout de suite à l'actualité, un petit peu l'actualité de la
littérature
jeunesse, ouais, et pas que.
Et non.
Tiens, juste, je voulais vous parler, justement, en parlant de littérature, pas forcément que jeunesse. Vous savez que dernièrement, il y a eu un petit truc qui s'est passé dans l'édition, en fait. Il y a un certain monsieur qui a déjà beaucoup de médias qui s'est installé, voilà, qui a racheté Hachette, c'est Monsieur Bolloré. Et donc, du coup, bah, ça a réagi un petit peu, puisque beaucoup d'éditeurs se sentent un petit peu en danger par ce désir un peu de monopole, hein,
qui est assez net.
Et donc, il y a plein de petits éditeurs, des éditeurs indépendants qui se sont mobilisés et qui ont fait un collectif et qui devraient publier un livre. Alors, je crois que la publication devrait paraître en juin, qui va s'appeler « Déborder Bolloré ». Et l'idée, justement, c'est de commencer un petit peu la lutte, hein, de garder un regard indépendant, de ne pas donner toutes les mains, les clés de l'édition, en fait, à ce personnage, et donc de lutter un petit peu. Hein, c'est vraiment le début de la lutte. Donc, ce sera un recueil, en fait, collectif, où une cinquantaine d'éditeurs et d'éditrices indépendants s'associent. Vraiment, ils ont fait un travail en commun pour pouvoir commencer la lutte. Et ça, on trouve que c'est un acte important.
Et on a envie de les soutenir.
Vraiment. Nous, on a envie de les soutenir, en tout cas. Voilà, ça va s'appeler Désarmer Bolloré. Vous pourrez demander ça à vos libraires indépendants, évidemment. J'ai dit quoi ?
Désarmer.
Ah oui, ça marche aussi.
Ouais.
Ça marche aussi, mais c'est débordé, le vrai titre, c'est vrai. Comme quoi, un beau lapsus, celui-ci.
Oui, mais il y a plein de choses en D qu'on pourrait dire.
Hein. Ouais, tout à fait. Autre actualité, tiens, plus en littérature de jeunesse, c'est les premières sélections des prix sorcières qui sont tombées. Donc, ce n'est pas encore les résultats finaux qu'on verra normalement lors de la prochaine émission, parce qu'ils devraient donner fin mars, je crois. Mais non, c'est les catégories avec les cinq livres choisis.
Carrément
à chaque
super.
Fois. Exactement. Et alors là, franchement, Madame Véro, j'ai regardé toute la sélection. Eh ben, je pense qu'on en a présenté sur les 30, parce qu'il y a 6 sélections avec 5 titres à chaque fois. Sur les 30, je pense qu'on en a présenté une vingtaine.
On est bon.
Moi, je pense qu'ils pourraient nous demander de faire la sélection.
Bah,
franchement, comme ça irait plus vite.
Carrément.
Hein. Ouais, ils n'auraient qu'à écouter l'émission. Et puis, voilà. En tout cas, non, c'est une très belle sélection. Et donc, quel que soit le vainqueur, nous, on va être comme l'école des fans, en fait.
Oui,
on s'en fiche un peu.
Oui,
l'idée, c'est d'avoir des très bons livres. Et là, les 30 livres que vous avez dans la sélection, franchement, allez la regarder. C'est que des super bons livres. Plutôt chez plein d'éditeurs indépendants, en plus. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Des petits éditeurs. Des un peu plus importants, des auteurs vraiment qu'on aime beaucoup. Donc non, c'est une très très belle sélection. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à voter pour à chaque fois un seul titre dans la sélection. Allez.
Donc en tant que libraire indépendant, vous votez pour les sélections.
Ben surtout en tant que librairie sorcière, puisque en fait, vu qu'il s'appelle le prix sorcière, il y a un lien avec
c'est
les
pour
livres.
Ça.
Exactement.
C'est pour ça.
Exactement.
D'accord.
Donc oui, chaque librairie vote.
Si je veux voter, il faut que je monte une librairie sorcière.
Ou que vous fassiez partie de l'ABF, l'Association Bibliothécaire
oui.
de France.
Ah,
ce
oui.
qui est plus facile pour vous,
oui,
peut-être.
Oui, pour moi, c'est pas mal, ouais.
Voilà, donc c'est parce que c'est la somme des deux en fait, qui font le prix sorcière.
Oui, oui, c'est vrai.
Voilà. Donc on donnera le résultat dans la prochaine émission. Et là, le teasing prix, vous serez obligé d'écouter la prochaine émission. Allez, on commence, on parle un petit peu de livres, on va laisser un peu de place à Hélène Lenoir, et on va commencer évidemment avec les tout-petits. Nous, on aime bien remonter l'âge de l'enfance et de l'adolescence, donc on commence avec les livres pour les tout-petits. Madame Véro, c'est à vous.
Eh bien oui, deux petits livres carrés. Le premier, Drôle de rencontre dans les airs, Olivia Cosno, et Bernard Duisit. Chez Helium, on est chez Helium qui, alors je ne sais pas si, non ça ne rentre pas forcément dans leur collection de livres pop-up, mais c'est un livre pop-up.
Ah si, c'est dans la...
Mais
bah,
je sais qu'ils avaient une collection, un nom
de collection. Il est un petit peu plus grand, vous avez raison.
Il est un peu plus grand, il sort un peu
tout à fait.
Du gabarit. C'est une pépite pétillante, ça saute dans tous les sens, ce sont des oiseaux, hein, puisqu'on les rencontre dans les airs, des oiseaux comme le colibri, comme les... enfin c'est pas que des oiseaux, il y a les chauves-souris aussi, il y a le tamarin lion, les frégates, les quetzals, donc on revient aux oiseaux, beaucoup d'animaux un peu, on pense qu'on est en Amazonie, enfin donc un petit peu en dessous de chez nous, quoi, on va dire. Et c'est une merveille. Je l'ai gardé en petite enfance exprès parce que je milite beaucoup pour qu'on puisse proposer des pop-up aux
c'est
tout
important.
Petits pour partager et regarder leur émerveillement. Rien que ces instants-là sont extraordinaires. Et ce petit livre, tout animé, tout sautillant, volant, virevoltant, est une pure merveille avec un texte très simple, des animaux qui parlent de temps en temps un petit peu comme une BD, très très léger, des matières différentes aussi, brillantes, mates. On rentre dans la forêt, on rentre chez ces animaux, c'est joyeux, c'est coloré, c'est du peps.
Et puis
ce colibri qui arrive devant une fleur géante et succulente, extravagance, extasie, le colibri et cette fleur géante, et ben c'est un bouquet de papillons monarques qui s'envole à la fin du livre, et l'adulte autant que le tout petit est émerveillé, bouche bée devant ce petit livre revigorant.
Je suis émerveillé, bouche bée. Il me tarde que vous me présentiez votre prochain coup de cœur.
Alors, je militais aussi pour que les bébés aient leur machine à laver. Je pense que c'est important.
D'accord.
C'est important qu'ils puissent...
Tout c'est pratique pour les parents, mais...
Oui, alors ce n'est pas les mêmes usages, on va dire. Mais là, Petit ours fait la lessive de Nicolas Kent. On est chez Mine Édition. Et donc, c'est un livre tout carton. Très costaud, je précise. Et c'est deux petits, un petit croco et un petit ourson qui préparent un jus de cassis. Enfin, c'est un jus de fruits rouges bien sombre. Hein, et patatras, ça tombe sur le t-shirt et tout. Et il faut aller laver les t-shirts dans la machine à laver. Et là, on va faire tous les gestes, c'est-à-dire les mettre d'abord dans le panier à linge. Et ensuite, on va les mettre dans la machine, faire tourner la machine. Alors, on va aussi verser la lessive avant de faire tourner la machine, évidemment.
C'est mieux quand même.
Voilà, et en faisant un simple geste, tirer, pousser, voilà, on a le jet de lessive qui coule dans la machine, on appuie sur le bouton et c'est parti, la machine se met à tourner. Il n'y a aucune électronique dans ce livre, c'est juste de l'huile de doigt.
C'est très important.
Voilà, c'est important. Mais il est très très bien fait au niveau manipulation, il y a le bonheur d'un acte quotidien comme ça que l'enfant voit.
On est d'accord que le personnage n'est pas genré.
Ah ben non, je ne m'étais même pas posé la question.
Non, mais c'est important. C'est que
Ah ben pas du tout.
Et c'est
ah
ben
non,
ours,
pas du tout.
Ours.
Bah, ours ou ours. Je ne sais pas.
C'est un animal, donc c'est très bien.
Alors, c'est un animal, évidemment.
Non, parce que dans la littérature de jeunesse, on a vu quand même pas mal de fois
oui,
où.
Et c'est pas maman.
Voilà, c'est
y
ça.
Il n'y a pas maman.
C'est ce que je voulais dire.
Pour les mamans, d'ailleurs.
Et bah, je pense qu'elle est dehors en train de fumer des clopes.
Bah oui. Oh,
elle a
bah,
bien raison.
Ah bah bravo.
Enfin non, non, elle est en train
bravo,
de,
monsieur
de regarder les oiseaux.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Avec une petite bière, ouais. Hein, quand même, une petite bière. Ah, pardon.
À consommer avec...
Oui, voilà. Et donc, le soleil brille, hein, c'est vraiment le grand soleil, comme en ce moment, ils peuvent étendre leur lessive et enfin siroter leur bon jus de fruits.
Ah ben voilà, voilà. Ils rejoignent maman.
Aussi, exactement, ils vont en offrir un à maman. Exactement.
C'est parfait.
Voilà, une grande autonomie de jeu.
Et un sujet finalement assez peu traité.
Bah, j'en avais vu un en doudou il y a très longtemps. Oui. J'ai gardé d'ailleurs, parce que c'est trop bien. Mais là, c'est complètement différent et c'est très bien foutu.
Eh bien, merci Madame Véro. Moi aussi, j'ai quelques coups de cœur rapides pour la petite enfance. Avec un, le retour, on sait, on attend tous ces livres tout le temps avec tout beaucoup temps. D'impatience. C'est Édouard Manceau. Édouard Manceau qui produit... Hein, beaucoup de livres, mais qui produit vraiment des livres de qualité.
Oui.
Il revient au Seuil Jeunesse avec ce livre. Pas caca, toutou, là. C'est compris ? C'est compris, Véro ?
Ouais, je pense que...
Je suis obligé de vous en lire un petit
message.
Peu. Toutou. Oh, caca, toutou. Caca ? Mais caca où ? Caca dans le trou-trou. Non, pas caca, toutou, là, ou je te mords le cucu. Bouh, caca où ? Caca dans le tron-tron. Non, pas caca toutou là où je te pince le cucu. Pas caca dans la boîte. Non, pas caca toutou là où on te pique le cucu. Voilà, je laisse le suspense.
C'est des abeilles qui parlent, hein, oui. Je précise quand même.
Tu veux que je... Non, pas caca toutou là où tu piques le cucu, c'est ça.
Oui.
Voilà. Bon, je laisse le suspense pour savoir où caca va faire.
Où le chien va faire caca.
Non, ou caca toutou.
Toutou va faire caca.
Ou caca toutou là.
Oui, oui, j'ai ça.
Ah, vous parlez pas le caca toutou.
Non, on dirait de l'allemand ou du breton, quoi. Ils mélangent toutes les lettres, enfin les mots plutôt.
Enfin bon, je vous l'avais compris, à lire à voix haute, c'est un vrai plaisir. Je crois que les enfants ne se sont toujours pas remis à qui j'ai fait la lecture. C'était vraiment,
non, mais c'est vrai que c'est
c'était
un
vraiment
régal.
Très drôle, quoi. Et puis avec les plus grands, ça marche évidemment. Regardez, ouais. Madame Véro, elle est morte de rire.
Oui,
donc,
oui,
voilà.
Oui, tout à fait.
Ça marche tout le temps. Deuxième petit coup de cœur, pardon. Ça s'appelle Mon Dragon. C'est d'un jeune auteur qui s'appelle Armand Demezy. Et attention, il est du 5-3. C'est la Mayenne. Voilà, c'est pour ça qu'on est très fiers de lui. C'est un petit gars de chez nous.
Et oui.
Qui sort son premier livre, Mon Dragon, publié à La Poule qui pond. Et
donc,
c'est
Clermont-Ferrand.
Clermont-Ferrand, exactement. Et là, on va suivre donc une histoire toute douce. C'est un peu les nouvelles collections de La Poule qui pond en tout cartonné.
Oui.
Hein, c'est
toujours
des petites histoires très courtes, très douces. Et je trouve que le dessin d'Armand Demezy prête vraiment très bien. C'est tout rond, plein de douceur. Et voilà, il va parler de ses amis qui ont tous un animal, des chats, des chiens, des hamsters, des lapins. Et bien lui, il a un dragon.
Ben oui.
Voilà. Et ce dragon, il adore faire plein de choses avec lui. Il adore courir. Il adore manger de bonnes choses. Et puis, il adore surtout se faire gratouiller. Et puis, se faire des gros câlins. Voilà. Donc, c'est tout mignon. C'est à la fois sur le doudou. C'est à la fois sur l'animal de compagnie.
Est-ce qu'il colore la typographie, là ? Non, pas là-dessus.
Non,
parce qu'ils ont souvent le souci par rapport au dyslexique.
Non, c'est pas les livres, justement, qui sont destinés au dyslexique.
Je l'ai vu dans des albums aussi, parfois.
Dans les albums pour plus grands, ils le faisaient. C'est comme ça qu'ils ont commencé, d'ailleurs. Et non, là, on est vraiment dans un album classique, cartonné. Mais c'est vraiment très doux. Et comme c'est un jeune auteur, on voulait en parler.
Vous pouvez rappeler le nom de l'auteur ?
Il s'appelle Armand Demezy.
D'accord.
Voilà, et c'est publié La Poule qui pond. Ça s'appelle Mon Dragon. Et puis dernier petit coup de cœur pour la petite enfance, mais pas que. C'est un très beau petit livre. Alors, c'est un peu format cahier, vous voyez, c'est une reliure. Alors, je crois que c'est à la japonaise qu'on appelle juste avec un petit. C'est tissé en fait, avec un fil. Et ça s'appelle Dubutsu. Alors, Doubutsu, je ne sais pas si je prononce bien. C'est un imagier de Kazuko Matt et c'est publié aux éditions Troisième Œil. Et ces éditions, on sait qu'elles sont très très sensibles. À la qualité de papier, à l'objet livre. Mmh. Et là, on est vraiment là-dessus. Kazuko Matt, en fait, c'est une illustratrice japonaise qui vit en Europe, je crois maintenant, en tout cas qui a travaillé en Europe, et qui s'intéresse beaucoup à des techniques comme la gravure sur bois, la linogravure, voilà. Et donc, ce petit livre, c'est un petit livre très simple, un imagier, en fait, un imagier d'animaux où on a effectivement une gravure de l'animal. Alors, c'est publié en rhizographie. Donc, la rhizographie, vous savez, ça ressemble un petit peu à la sérigraphie. Mais c'est fait avec une espèce de machine, en fait, qui est beaucoup moins...
Ça n'a rien à voir avec le riz ?
Ça ressemble... Non, pas du tout. Ça fait, sur la photo... C'est comme une grosse photocopieuse, mais d'accord. Ça donne les mêmes formats un peu que la sérigraphie. Donc, c'est des images très flashy, avec des couleurs hyper vives. Et ça donne un résultat vraiment, vraiment super beau. Mmh. Et c'est un petit imagier où on a donc un animal, le mot en français et le mot en japonais.
Bilingue.
Voilà. Donc, on sait, le loup, ça se dit okami. Mmh. Le lapin, usagi. Le serpent, hebi. Voilà. Et c'est comme ça que vous travaillez votre petit japonais. Et vraiment, l'ouvrage est très, très beau. Enfin, c'est très facile de craquer pour ce petit livre publié chez Troisième Œil. C'est pas très cher en plus, c'est à 10 euros. Donc, on voulait vous en parler un petit peu parce que c'est un petit éditeur qui fait vraiment un travail de qualité. On passe pour les un petit peu plus grands. Je garde la main parce qu'après, il y a le vrac de Véro quand même. Donc, je fais un mini vrac à Simon. D'accord. Le mini vrac de Simon.
De Simon. Ouais. Simon.
Voilà. Oui, c'est ça. Oui, Simon. On commence avec le nouvel album, le livre CD de chez Benjamin Media. Ah. C'est un éditeur qu'on adore, qu'on a envie de défendre. On sait que c'est pas simple pour lui, comme beaucoup d'éditeurs indépendants actuellement. Donc, il faut que vous déplaciez pour aller acheter ces livres, les écouter. On le redira dans l'émission, surtout plein d'éditeurs, mais c'est vraiment important de soutenir ces éditeurs indépendants. Le dernier livre s'appelle « Petit Rien et Grand Tout ». Il nous raconte les aventures donc, de deux amis, donc Petit Rien et Grand Tout. Mmh. Ce sont deux copains. Petit Rien, lui, il sait tout sur les bidules. Il connaît les machins, il connaît les étoiles. Il est capable de parler de ça pendant des heures. Grand, lui, c'est la... Grand Tout, lui, il sait pas trop les choses. Par contre, il a toujours dans ses poches des petits trucs, des petits riens qui vous mettent de bonne humeur. Ouais, des petites choses comme ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Petit Rien, il n'arrive pas à expliquer. Et Grand Tout, il a rien dans ses poches.
C'est le vide.
Ah, ouais, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, c'est le mystère, c'est ce que vous découvrirez en écoutant ce nouvel album. Ce nouvel album, il est écrit par Christos, il est illustré par Audrey Caléja, moi j'aime beaucoup cette illustratrice. Et c'est un très bel album avec beaucoup de douceur entre les personnages. L'amitié des deux personnages est vraiment très belle, parce que tous les opposent, mais finalement ils sont vraiment très proches, et puis surtout ils se complètent l'un l'autre. Mmh. Et puis évidemment, ils vont trouver des solutions. On trouve toujours des solutions. Et puis, il faut souligner aussi que Benjamin Dia continue à faire des CD, à produire des CD. Et ça, c'est important, puisque quand beaucoup de gros éditeurs arrêtent ou pensent arrêter le CD, s'il y a bien encore un endroit où le CD a sa place, c'est dans les chambres d'enfants. Parce que je suis désolé, mais aucun enfant ne pratique le QR code avec son téléphone qu'il n'a pas.
C'est vrai,
Donc, si vous voulez que les enfants soient indépendants, eh ben, il faut leur laisser des petits CD avec des petits lecteurs de CD. Je suis désolé.
Je suis d'accord.
Allez, encore un autre petit. Je me souviens, vous aviez adoré le travail de Claire Schwartz. Vous vous souvenez ? Mais si vous vous souvenez, vous aviez présenté Une nuit à Insect Hotel.
Ah oui, c'était génial. Ah oui, c'était bien. Ouais. C'est vieux, ça.
Bah oui, on est évidemment chez les Fourmis Rouges. Eh bien, elle revient. Elle revient, Claire Schwartz, avec un nouvel album qui s'appelle Mission Borco chez les Bisties. Et on retrouve donc nos petites bêtes d'appartement. Ah. Vous vous souvenez, dans Une nuit à Insect Hotel, c'était une petite bousière qui était le personnage principal. Oui. Eh bien, elle est encore là, mais ce n'est pas forcément le personnage principal sur celle-ci. C'est d'autres, c'est les Bisties. Les Bisties, c'est une petite famille de petites bêtes d'appartement qui veulent se promener tranquille. Parce qu'en plus, Betty Bistie, elle a invité justement Suzy Bouzman, la jeune bousière.
Oui.
Parce qu'elles sont super copines pour la journée, donc ils ont décidé de les balader.
Sauf que,
la petite humaine, celle qui est dans la maison,
ouais.
Elle a perdu son borco.
Le borco,
c'est, on ne sait pas ce que c'est le borco. On se doute que c'est une espèce de doudou, c'est le borco. Et elle est hyper pénible. Donc elle se met à crier, à crier, à crier. Et du coup, les gens d'appartement, ils ne vont jamais sortir. Ils vont jamais sortir, donc les Bisties, ils vont pas pouvoir faire leur journée tranquille,
Parce que quand les gens
d'appartement partent, pour eux, c'est nickel.
Place, quoi,
voilà. Donc ils vont décider d'aller partir à la recherche du Borco.
Sans savoir ce que c'est.
Ouais. Mais si, ils savent ce que c'est, en fait.
Ils
connaissent la petite, donc ils savent ce que c'est. Elle cherche son Borco partout. Oui, et au bout d'un moment, la petite fille, elle va aller voir les Bisties. Il y a une petite relation qui se crée entre eux, c'est très très beau. Alors, comme d'habitude avec Claire Schwartz, c'est hyper pop. Le dessin est génial. C'est elle fait des plans en plus qui sont assez. J'adore les géants, d'appartements. Ils ont des énormes pattes et pieds poilus pour
pas épilés. Ouais.
Et puis ces petits bistis sont trop drôles. C'est entre la BD, la sérigraphie aussi parce qu'il y a des couleurs hyper flashy. Enfin, moi, j'adore l'univers de Claire Schwartz.
Le sombre du vert foncé est extraordinaire aussi.
Ah ouais, non, mais tout est super. Le orange est magnifique. Enfin, voilà, on a envie d'être avec eux. C'est drôle. C'est plein d'amour entre les personnages. Enfin, c'est un vrai coup de cœur. Donc, Mission Burko chez les Bistis, au Fourmis Rouge, c'est Claire Schwartz. Et puis, mon dernier coup de cœur, tac, 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 ça s'appelle La Collectionneuse. C'est chez L'Étagère du Bas. Et on retrouve Emmanuel Petri-Sirvin et Lucide Plassin. Et là encore, L'Étagère du Bas, c'est un éditeur qui, il n'y a pas très longtemps, a fait un petit appel sur les réseaux pour dire eh ben, il faut que vous nous aidiez. Donc, il faut les aider. Il faut aller acheter les livres de L'Étagère du Bas et les faire découvrir autour de vous. Et ben, moi, je vous conseille La Collectionneuse. Un de leurs derniers albums qui est sorti en fin d'année dernière. C'est absolument superbe. Là, on retrouve le travail de Lucille Plassin à l'illustration. Et c'est vraiment super. En fait, on va suivre Tanakil. Tanakil, c'est une petite fille. Et cette petite fille, elle adore collectionner des trucs. Mais elle collectionne tout. Donc ça a commencé par les doudous et les peluches. Et puis après, ça se passe avec les oiseaux. Et puis les mousses, les lichens, les fioles de parfum, les guitares, les théières et tout. Enfin, tout est symbole. Les voitures, oh là là, mais non, mais tout est possible en fait. Les amoureux.
Hein. Les maisons. Elle collectionne les amoureux.
Les maisons aussi, oh là là. Et puis un jour, quelque chose se passe dans sa vie. Et tout à coup, toutes ces collections deviennent futiles. C'est un très beau message, c'est un très bel album, vraiment mis en avant aussi par le dessin magnifique de Lucille Plassin, qu'on a vu déjà chez plein d'éditeurs. Enfin voilà, si vous voulez une idée pour aider un éditeur comme L'Étagère du Bas, indépendant, qui a besoin de nous, je vous conseille La Collectionneuse d'Emmanuel Petri-Sirvin. Emmanuel Petri-Sirvin, c'est son premier album. Elle travaillait dans des programmes d'animation, en fait, pour la télé ou pour des sites. Et ben, c'est un très bel album. Et puis, c'est illustré par Lucille Plassin. Allez, tout, c'est l'heure du... C'est le vrac de Véro. Véro en vrac. Ah, c'est un nouveau... Non. Il est super. Allez, Véro.
L'est ouvert de Denitsa Mineva. J'arrête pas de voir des livres de cette autrice. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe.
Eh ben, c'est elle qui fait les tout carrés, les...
Oui, voilà, c'est ça, les commandes que j'ai faites. Aux éditions du Jasmin, cette fois-ci. Dans le pays, vive l'est ouvert. Ils ne connaissent que la couleur verte. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça.
Pourquoi
tout... Ah non. tout est vert. Ils l'ont appris de leur père, qui eux-mêmes l'ont appris de leur père. L'univers entier est vert, ça, c'est clair. Fougère, fait dodo mentalo, une souris verte qui dormait dans l'herbe. Seuls les enfants remarquent parfois une rose rouge par-ci, un nuage gris par-là. Mais malheur au petit ouvert qui demande « Qu'est-ce que c'est ? C'est rien du tout !» répond vertement l'adulte « Arrête de rêver et remets ton pull au vert !» Il faut dire que le peuple tout vert distingue un million de nuances de vert, soigneusement rangées dans des musées, dans des livres, dans des dictionnaires verts, racontant en prose et en vers la vie et la gloire des tout verts. Alors, on rentre dedans, très très facilement, on y reste avec bonheur. Évidemment, on est au royaume de la découleur. En plus, là, j'adore ces déclinaisons de verres, parce que là, je n'ai donné que quelques... Mais il y a des verres existants, déjà, des verres qui ont été inventés. On est dans petit bleu, petit jaune aussi, dans le message.
Là, il y a du rouge aussi.
Voilà, des couleurs qui vont se rencontrer, qui s'opposent, et qui finalement s'associent. Les tout verts vont finir par être tolérants et s'ouvrir sur d'autres couleurs. Voilà. Et c'est vraiment... Il y a énormément d'humour. Hein. Il parle de Tagada pour les rouges. Voilà. Enfin, il y a plein de petites références à la pop culture aussi, beaucoup. Et des jeux avec la langue aussi. Enfin, on s'amuse beaucoup. C'est un petit régal. Un petit régal d'histoire.
Super.
Voilà. Donc, les tout verts.
Un autre. De Denitsa Mineva aux éditions du Jasmin.
Voilà.
Mineva, pardon.
Hervé ne veut pas partager,
ouais,
de Steve Small. Oh, il devrait vous plaire celui-là.
Moi, je l'adore.
Moi, je vous vois bien le lire.
Ben, je l'ai lu.
Vous l'avez lu. Ouais, je vous connais.
Aux dernières lectures, je l'ai lu.
Je vous connais bien. Ouais. On est chez Sarbacane et il y a ce lièvre sur la première page qui est accroché à son navet. Enfin, il l'a dans les bras, il ne le lâchera pas parce qu'il a, enfin, il cultive des navets avec beaucoup de soin. Mais il y a une bande de petits lapins. Alors, la particularité de ces personnages dans ce livre, c'est qu'ils sont tous kawaii craquants. On fond complètement. Ce lièvre a les grandes oreilles tombées en arrière comme ça, on dirait une belle jeune femme. Enfin bon, bref, on dirait la Joconde. Je ne sais pas. Enfin bon, il est craquant. Et donc, sauf qu'il est craquant, mais il ne veut pas partager ses navets.
Pas très sympa.
Non, même. Il n'est pas sympa du tout. Et jusqu'au jour où il y a un sanglier qui s'occupe de ses navets, mais on n'a rien de temps, hein, il rase tout. Et il est bien embêté, donc il est bien content de trouver les carottes des lapins. Je ne vous en dis pas plus. Et une grande communauté va se former autour des navets et des carottes. Les lapins sont des crèmes, des choux à
sympas.
La crème.
Ils sont trop sympas.
Des choux à la crème.
Un super album. Un auteur qu'on adore.
Hervé ne veut pas partager Steve Small et on est chez Sarbacane.
Merci.
Et qu'est-ce qui arrive après ? Après arrive Annie Monstre par Henri Galeron. Tout cartonné. Les grandes personnes. Ça veut dire qu'il faut que j'aille plus vite, hein,
oui.
C'est ça. D'accord, ok. Donc, le principe du pêle-mêle, on ouvre à gauche, on ouvre à droite et on forme des animaux. L'avant sur la page de gauche, l'arrière sur la page de droite et le texte aussi. Un rien velu et trois fois cornu, le pelu bohu chamboule tout en passant.
Mais c'est fou, Henri Galeron, il fait des livres depuis...
Très très longtemps. On le reconnaît bien. Hein.
Ben oui.
À chaque fois, on reconnaît ses couleurs.
C'est vraiment d'actualité. C'est-à-dire que c'est pas des livres dépassés.
Puis on est dans une espèce de surréalisme.
Moi, j'adore. C'est vraiment les années 70. Hein,
oui. C'est vraiment. C'est vrai. C'est un livre-jeu parce qu'on joue beaucoup.
Et avec
beaucoup,
le pêle-mêle, ça fonctionne très bien.
C'est très très bien. Les grandes personnes. Qui font beaucoup de livres-objets, donc ça, c'est un des beaux livres-objets des grandes personnes. Je scrolle. Ouvre. Alors, Art Spiegelman, Maos, des BD extraordinaires, des chefs-d'œuvre sombres, très souvent très sombres, et ce livre qui s'appelle Ouvre.
Qui est un vieux livre, hein, qu'ils viennent de rééditer.
Tu peux tout regarder.
Ils viennent de rééditer, en fait. C'est-à-dire que c'est un livre qui date d'une vingtaine d'années, et là, ils viennent de le republier. C'est Flammarion qui
est. Il était publié comme ça aussi.
Ouais.
Donc là, ce livre, il a une laisse, hein, parce que ceci n'est pas un livre, ceci n'est pas un chien. Je vais plutôt, voilà. Mais ouvre, je suis un chien. Et on va suivre ce chien qui croise un magicien, qui le transforme en lapin, qui le transforme en berger allemand aussi. Il va le transformer en berger allemand, mais pas le berger allemand, vous connaissez le chien Rintintin. C'est un berger allemand, un vrai berger en Allemagne, en Bavière,
qui garde les moutons.
Voilà. Donc c'est tout le délire d'Art Spiegelman qui est en branle et qui nous séduit. Mais en plus, ce livre est un livre-objet avec des petits pop-up très légers, mais qui illustrent des petits clins d'œil avec des pages pliées. Voilà. Et puis ce chien qui est représenté par un feutre orange, qu'on peut caresser de temps en temps, on ne peut pas s'empêcher, et qui est représenté aussi à la fin, toute une page de feutre orange. Et on a vraiment l'impression de caresser ce chien. Est-ce un livre, est-ce un chien ? On s'en fout un peu. C'est un livre merveilleux.
Merci.
Voilà. Et bleu. Ah oui, ben bleu, vous me laissez 2 minutes. Hein. Ici, le bleu est la couleur de l'oppression des femmes. Une jeune fille fleur bleue qui avait des rêves plein les yeux. Les hommes lâchent avec une peur bleue. Les alcoolos qui boivent du gros bleu. La brute qui lui faisait des bleus. Et enfin, la rencontre avec Barbe Bleue. Donc, il y a des dehors, il y a des fleurs et des sourires. Hein, c'est assez joyeux, en apparence, en illustration. Avec, on appelle ça la trichromie, hein, trois couleurs, bleu, orange et noir. Mais qui narre un peu l'éternelle histoire des femmes de ces siècles derniers. Avec une fin assez sympa au niveau du petit clin d'œil qu'on voit à la toute fin.
Pas trop dur là.
Ils mettent à partir de 11 ans. Faut déjà peut-être une petite référence Barbe Bleue parce qu'il y a les clés, il y a le sang sur les clés. Voilà, il y a tout ça.
Ok, super. Bon, moi, j'ai envie de découvrir ça. Je le connaissais pas. Donc ça s'appelle Bleu.
Et on est chez Motus et c'est Alice Brière-Aquet qui écrit et Élise Carpentier qui dessine.
Et Motus, l'éditeur
de François David.
Ouais, de Normandie. Enfin,
de Normandie.
Exactement.
De l'Orne. Pour toujours, toujours Denitsa. Mineva, encore elle.
Ah bah
elle.
Tiens,
encore
la revoilà.
Elle. Et pour toujours, c'est un album de lumière colorée, subtile, envoûtante. un message aussi d'une simplicité lumineuse, où pour toujours, tout recommence avec ces saisons qui passent, mais surtout ces points de couleur qui apparaissent comme ça et qui restent dans la rétine. Vous savez, quand on a regardé un peu le soleil en face, et ça vous éblouit. Voilà, c'est ça. Avec la mer qui s'agite, avec l'automne qui arrive, les feuilles qui s'envolent, et toujours ces pluies de couleurs, ces galets de couleurs, ces étoiles de couleurs, ces pétales de couleurs, des couleurs vives et pastel, éclatantes de lumière. Vous savez, il y a des appareils pour prendre la vitamine D, là, pour la luminothérapie. Eh bien, ça fait pareil.
Prenez ce livre, c'est
rapide. Voilà, c'est pareil.
Donc ça s'appelle Pour toujours.
Pour toujours, Denisa Mineva. Et on est chez Willy. Connais pas Willy?
Willy.
Willy, Arnold et Willy. Non, c'est pas ça.
Non, ça s'écrit
Willy.
I-U-L-I.
Bon. Oui, j'ai pas été regardée comme d'habitude.
Ah bah, bravo. Ouais. Et bah, vous avez le temps de ma lecture pour regarder.
Voilà,
qui c'est.
Je vais regarder.
Et puis vous nous redirez après. Eh bien oui, parce que c'était un très beau vrac. Merci Madame Véro. mais il est déjà l'heure du coup de cœur, hein, effectivement. S'appelle « Je voudrais te dire » de Jean-François Sénéchal et Chiaki Okada, publié chez Saltimbanque. Ce matin, je t'écris une lettre. Au-dessus de la clairière, le soleil est timide, la forêt immobile, les oiseaux se taisent. Je voudrais te dire, mais je ne trouve pas les bons mots. Comme lorsque je me suis rendu chez toi, mamie, tu étais si fatiguée. Je n'ai rien dit. Rien. Je ne te reconnaissais pas dans ton lit, si petite, si fragile. Il y avait pourtant ton odeur partout. Ton grand chapeau accroché au mur, ton bâton de marche près de l'entrée, tes plus belles plumes sur la table et tes trésors dans le grand coffre. Aussitôt mes souvenirs se bousculent. Ensemble nous avons créé des merveilles. Nous avons grimpé au sommet du monde. Nous avons fait des découvertes incroyables et vécu de grandes aventures. Ce matin, je t'écris une lettre. Je voudrais te dire... Puis maman vient vers moi. Elle me dit qu'elle arrive de chez toi et que tu es parti, que tout est fini. Je n'ai pas cru maman. Je t'ai cherché partout, même aux endroits que nous étions les seuls à connaître. Je ne t'ai trouvé nulle part. Alors, un gros orage a éclaté. Le tonnerre a fait trembler la clairière et la forêt tout entière. La foudre est tombée sur le grand chêne. J'ai crié. Après, je suis resté longtemps près de la rivière, à regarder l'eau couler et couler encore. Je n'essaie pas de la retenir. Tout comme les jours qui passent. Peu à peu, la blessure du chêne a guéri. Ses feuilles bruissent de nouveau dans le vent. Le soleil est de retour, les oiseaux aussi. Ils chantent. Ce matin, je t'écris une lettre. Tu ne la liras jamais, je le sais, mais je l'écris quand même. Parce que je voudrais te dire que je t'aime, te dire adieu, enfin. Voilà un très bel album, très très bel album de Jean-François Sénéchal. Et encore, vous n'avez pas vu les illustrations de Chiaki Okada qui sont mais juste à tomber. Chiaki Okada, ça fait plusieurs fois qu'on voit son travail chez Ciro, chez Saltimbanque. Voilà, cet album il est chez Saltimbanque. Je vous laisse le découvrir par vous-même, c'est un album magnifique. En attendant, on va s'écouter un petit Philippe Catherine qui sera au fond de la rue, hein, qui va nous chanter Nu, et on va se sentir bien.
Nu Est-ce qu'il y aurait des guerres si on était resté tout nu? Non. Ou cacher un revolver quand on est tout nu? Ou je sais où vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais. Plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Oui. Qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. Oui. Vivons comme on est né, nu. Vivons comme on est né, nu. Tout simplement tout nu, nu. Tout simplement tout nu. Comme le sont les animaux qui n'en font jamais trop. Ils voient qu'on ressemble trop à des singes sous des montagnes. Des pélicans avec des chapeaux nuls. Tout simplement tout nul. Restons nuls. Tout simplement tout nul. Il n'y aurait pas eu des guerres si on était resté tout nu. On est tous sœurs et frères quand on est tout nu. Nous vivons comme on est né. Nus, vivons comme on est né.
Ah, mais Philippe Catherine nous fait du bien.
Ah oui.
Oui, parce que c'est vrai que cet album que je vous ai lu, il est quand même super beau, mais super triste. Mais en même temps, il est beau.
Ah bah,
il est vraiment beau. Donc,
Il est universel. Enfin,
exactement.
Ça résonne chez tout le monde.
Un peu comme Philippe Catherine. Avec
exactement.
Avec ce nu issu donc
d'ailleurs,
de l'album.
D'ailleurs, les Asiatiques nous l'envient beaucoup.
Oui, c'est vrai. Issu de l'album Zouzou, qui est sorti en 2024. Évidemment, vous vous souvenez, ce titre, évidemment, il l'a fait découvrir au plus grand public, puisque en l'écrivant, il s'est dit, dans sa petite tête de Philippe Catherine, « Dis donc, elle serait pas mal pour les Jeux Olympiques d'été. » Et il l'a envoyé pour de vrai. Hein, il l'a envoyé en vidéo au metteur en scène, à Thomas Joly.
Qui a craqué.
Bah oui, qui a dit « Mais oui, bien sûr, je veux. » Enfin, j'adore ces histoires, moi. Je ne sais pas si elle est vraiment vraie, mais en tout cas, elle est racontée comme ça. Et j'ai envie qu'elle soit vraie comme ça. Et donc, Philippe Catherine sera donc au fond de la rue. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places pour aller le voir, parce que c'est quand même quelque chose en concert. Allez, on parle encore... Ah, mais... Il y a quelqu'un derrière la porte, c'est Hélène Lenoir, elle est là, elle nous attend.
C'est vrai ?
Ouais, ouais, vite. Donc vite, Véro, il vous reste un petit roman à présenter, je vous laisse le présenter. Et
oui.
Après, on reçoit Hélène Lenoir. On
dit,
est prêt, on s'habille, tout ça.
Ah oui, donc je présente mon roman avant.
Bah oui.
Ah oui.
Oui, vous m'avez dit, je veux parler d'appelez-moi Maître Chat, voilà, c'est important.
Voilà,
je ne compte pas du tout. Hein.
Non. Encore un peu.
Encore un peu.
Ouais.
Donc c'est un roman jeunesse, n'est-ce pas, hein, qui est publié chez Les Lanvers, où on retrouve Sophie Duhaide avec le titre « Appelez-moi Maître Chat ».
Donc voilà, une revisite du conte, mais très très original, du conte du chat beauté, avec ce chat roux qui est dans une maison avec son maître, ouais, il appelle ça son maître, mais bon, qui est le maître de qui chez les chats, on ne sait pas, et qui lui reproche, un jeune garçon qui lui reproche quand même, franchement, il a tiré le mauvais chat, enfin voilà, parce que s'il avait eu le chat beauté, il aurait eu plus de chance quand même. Quand on te compare à ce matou, tu ne sais vraiment rien faire, tu dois tourner la journée et quand par hasard tu te lèves, ce n'est que pour manger. Voilà.
C'est un chat, quoi, en fait.
Donc,
c'est un chat normal.
Voilà, c'est un chat. Oui, c'est un chat, oui, c'est vrai. Donc, Il fait tout pour son maître, lui dit le jeune garçon en parlant du chaboté à son chat. Lui, il est top comme ça. Grâce à lui, son maître devient richissime. Château, princesse, carrosse et tout. Moi, si je compte sur toi, c'est pas gagné pour la villa, le top modèle et la Ferrari. Hein, franchement, je sais, mon maître est décevant. J'aurais préféré l'un de ces jeunes plus modernes et beaucoup moins égoïstes qu'on voit parfois aux informations qui manifestent, qui protestent pour l'avenir de la planète. Mais que voulez-vous, ce sont les humains qui nous choisissent dans les refuges et pas le contraire. On en a parlé souvent entre nous là-bas avec les copains des chats de la SPA. On refaisait le monde et on imaginait une autre organisation. On rêvait. T'es jaloux, hein, ricana Maxime. Donc ce jeune garçon, c'est le comte du chat beauté. Bon, je te la fais courte. Ce type-là, c'est son maître, et il s'est fait avoir grave quand son père est mort. Son grand frère a eu en héritage un moulin qui fait de la farine. Son deuxième frère, un âne, qui fait, je sais pas quoi, mais c'est ce qu'il lui dit, hein, je sais pas. Et lui, seulement un chat. Mais il s'aperçoit bientôt que le chat, il assure, il est archifuté, et lui, au moins, il parle. Il est menteur, comme tu n'imagines pas, et il embrouille le roi, il embrouille même un ogre pour lui piquer ses terres et son château, et blam ! En 3 pages, son maître se retrouve marié à la fille du roi et riche comme un footballeur. Alors, je me suis permis de lire ce petit extrait pour vous donner le ton extrêmement rythmé, enjoué, drôle. On s'éclate vraiment. Bon, ce chat, il va se vexer quand même à un moment parce que ça commence à bien faire. Hein,
quand même.
Et il va aller avec sa copine chatte des rues qui a plein de réseaux un peu secrets, un peu sorcières et tout. Il va aller essayer de trouver comment les chats ont perdu la parole et essayé de la retrouver. Je ne vous en dis pas plus. Vous avez une version du chat beauté aussi, en vrai, dedans. C'est remarquable. C'est vraiment très riche comme petit roman. On se régale. Beaucoup d'illustrations. C'est super.
Une nouvelle collection qui s'appelle D'après Perrault,
mais pas trop.
Très bien. Chez les Lanvers, qu'on connaissait plus pour les albums. Donc,
oui, il arrivait aussi dans les romans. Belles initiatives.
Oh, merci, Véro. Mais il est temps. Elle attend depuis tout à l'heure. Là, elle veut nous parler de La Reine de l'Ouest. La Reine de l'Ouest, c'est un des romans les plus chouettes qui est sorti récemment. Espèce de livre dont vous êtes l'héroïne, qui est aussi un western érotique. Voilà, il y a tout là-dedans. Et Hélène Lenoir, on l'a reçue pour en parler. Alors évidemment, on l'écoute.
Et donc, je suis avec Hélène Lenoir, l'autrice de Reine de l'Ouest.
Bonjour à tout le monde.
Ah, ouais, bon, excuse-moi,
mais non,
c'est bon. Bonjour Hélène.
Bonjour Simon.
Ça va bien ?
Ça va et toi ?
Ouais, je suis très content de te recevoir pour cette émission en Liquanou. Pourquoi ? Parce que tu as publié Reine de l'Ouest chez Sarbacane en fin d'année, non, en
août. Août, voilà.
En août 2024. Et voilà, c'était une vraie belle surprise dans nos librairies, tout ça. Enfin voilà, j'avais envie d'en parler avec toi. Donc comme tu es en dédicace aujourd'hui à la librairie, j'en profite. Déjà, raconte-nous un peu l'idée de ce projet.
D'accord.
Parce que c'est un projet quand même vraiment atypique et très original.
Alors, c'était un pur délire, purement gratuit. Je l'ai écrit pour moi et après, je l'ai proposé à des éditeurs.
D'accord.
Et en fait, c'est né de 2 choses. C'est né des livres dont vous êtes le héros, que je lisais dans les années 90 et dont j'adorais le système. Et en fait, il y en a un qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est très cool, qui s'appelle Orgueil et Destinée.
Wow.
Et les deux autrices, qui sont anglophones, reprennent tous les clichés de la littérature romantique du 19e, à la fois Jane Austen, mais aussi le roman gothique, l'archéologie en Égypte, qui avait beaucoup de succès à l'époque, etc. Et le principe, c'est ça, c'est une jeune fille, vieille fille londonienne, qui décide de prendre sa vie en main et qui va suivre des personnages, soit en Écosse, soit au fin fond de la campagne anglaise, soit à l'aventure sur les mers. Et il y avait un côté romantique assez important qui allait vers un érotisme léger assez sympa. Donc j'avais kiffé ce livre et j'étais en mode, mais c'est trop bien, je vais faire ça un jour. Et le deuxième aspect, c'est que j'ai joué 150 heures à Red Dead Redemption 2.
D'accord.
Voilà, j'étais à fond dedans. Avant,
donc un jeu vidéo, pour ceux
voilà,
qui
voilà, pour ceux qui
pas,
ne connaissent pas, Red Dead Redemption 2, c'est un jeu vidéo sur le Grand Ouest à la fin du 19e, et moi j'aimais pas les westerns, je comprenais pas les westerns, je pensais que c'était des mecs qui se tiraient dessus, plou plou.
Ça a souvent été ça quand même.
Mais le jeu est incroyable et surtout faisait très bien ressortir la situation aux États-Unis fin 19e avec l'industrialisation et la civilisation entre guillemets qui lentement grignote en fait le Grand Ouest américain tel qu'on l'imagine en fait, et donc c'est une bombe dehors la loi et la civilisation se resserre sur eux, ça devient étouffant au fur et à mesure du jeu. Donc j'ai fini le jeu avec des étoiles dans les yeux et il fallait que ça ressorte.
Et donc ça va que ça ressorte.
Pouf, Ça fait un bébé.
Et tu t'es mis à écrire donc Reine de l'Ouest.
Voilà, tout à fait, exactement.
Donc l'idée pour qu'on résume un petit peu, c'est donc un livre dont vous êtes l'héroïne.
Voilà.
Qui se passe donc dans le Grand Ouest.
Exactement. À la fin du 19e.
Voilà. Où il va y avoir un peu de romance, un peu de...
Ça va plus loin que la romance. Ouais, donc le livre est en 16+. Le livre est en 16+, et en effet, il y a un aspect érotique assez important qui est... Bah, techniquement, j'aime bien écrire des scènes érotiques parce que c'est intéressant. Une bonne scène érotique, c'est pas facile à écrire. Il faut qu'il y ait un enjeu, il faut qu'il y ait une progression des personnages. Et là, s'ajoutait le fait que c'était fin 19e, donc il me fallait un vocabulaire fin 19e. Donc on n'est pas du tout dans le vulgaire ou le crasse, on est parfois même dans la métaphore un petit peu délirante. Et c'était très très fun à faire. Quoi.
C'était fun à faire, c'est surtout fun à lire.
Merci.
Raconte-nous un peu comment tu as construit ça, parce qu'un livre dont vous êtes le héros, c'est vrai qu'on ne s'imagine pas forcément comment ça marche. Ouais. Tu me disais tout à l'heure qu'il y a 22 fins possibles dans le livre,
exactement.
C'est ça ?
Je ne sais pas si tu te rappelles, dans un épisode de Black Mirror, ils avaient fait un épisode justement à choix, où le spectateur ou la spectatrice devant sa télé pouvait choisir la suite, et il y avait ce symbole de la case avec un embranchement qu'on partait. Ouais. Bah, c'est un peu ça, il faut imaginer un arbre gigantesque, on part d'un truc assez linéaire, puis il y a des branches qui s'éparpillent, puis à un moment ces branches se reconnectent, donc tout en écrivant, je faisais mon propre schéma, et puis je bossais branche par branche, quoi. Je me disais, ok, elle a l'héroïne, elle va plutôt partir dans cette direction, elle va rencontrer tel personnage, il va se passer ça. Une fois que c'est fini, je passe à une autre branche. Parfois, il y a des branches qui se raccrochent les unes entre les autres, des personnages qui font des petites apparitions dans d'autres trames, etc. Mais l'un dans l'autre, finalement, c'est presque comme imbriquer des nouvelles les unes dans les autres, et c'était fun à construire, et voilà.
Ouais, j'imagine, il y a d'ailleurs comme une espèce de jouissance aussi à écrire ce genre de...
Ouais, c'est le côté. Alors moi, je viens du milieu de la fanfiction, et dans la fanfic, on veut tous que les personnages secondaires ils aient leur histoire, quoi, parce qu'ils la méritent, et du coup là, tous les personnages ont le droit à leur histoire. C'était très jouissif.
Par contre, j'imagine que ça impose quand même, par rapport à tes personnages, justement, où comme ils doivent se répondre d'un arc à un autre, tu dois pas les décrire tant que ça, tu dois garder un peu de flou, quoi.
Ouais, si on se concentre sur un perso, on peut aller plus à fond sur ce perso, mais on garde les autres un petit peu flou. En effet, à des moments, notamment, l'histoire reconnecte, plusieurs branches se rejoignent, et il faut qu'il y ait une logique, que la reprise corresponde à toutes les branches qu'on a explorées. C'est ce que je racontais un peu plus tôt. Si dans une branche, mon héroïne s'est fait couper le pied, bah, c'est pas logique que quand on rejoint toutes les branches, elle ait plus le pied coupé. Donc, il y a une réflexion à faire pour que tout soit cohérent, quoi.
Parle-nous un petit peu de ton personnage principal.
Miss Jones, c'est une jeune femme d'âge indéterminé dans la bonne société bostonienne, donc fin 19e. Âge indéterminé, pour moi, dans ma tête, ça va de 18 à peut-être même presque 30 ans. C'est une vieille fille, entre guillemets, et sa tante désespère de la marier. Miss Jones n'a pas du tout envie de se marier. Donc le livre est la deuxième personne, donc c'est vous Miss Jones, c'est vos aventures, et ça raconte avec le vous. Et du coup, Miss Jones se dit, je vais prendre ma vie en main, et elle a deux options de carrière qui se proposent à elle, institutrice dans les grandes plaines, et carrément infirmière au fond des montagnes du Montana. Donc déjà, il y a un choix au début du livre, assez rapidement. Où est-ce qu'on part? Qu'est-ce qu'on va devenir là-dedans? Et Miss Jones, elle n'est pas décrite physiquement pour que la lectrice ou le lecteur, je suis des lecteurs, puisse au maximum en fait se reconnaître dans Miss Jones. Et c'est pareil sur son caractère. Je voulais qu'elle ait un caractère dynamique, qu'elle prenne sa vie en main, etc. Mais pas non plus qu'elle ait des idées trop arrêtées sur certains sujets. Alors elle est moderne dans le sens où on m'a dit que le livre est très féministe et c'est cool. Moi, je trouve que c'est une femme qui veut faire ce qu'elle veut dans la vie. On m'a dit oui, c'est féministe. Ok, d'accord. Donc elle veut faire ce qu'elle veut elle dans la vie, mais à part ça, le but c'est de la laisser un petit peu lisse quand même pour
qu'elle puisse vivre aussi un peu toutes les aventures
possibles.
Voilà,
c'est ça, exactement.
Parce que dans ce roman, effectivement, elle peut être très gentille, très douce.
Oui,
tout ça.
Y a des...
Et puis elle peut aussi vivre des aventures beaucoup plus.
Un peu plus
de 16 ans, quoi.
Voilà, tu m'as raconté que tu as commencé par la trame dans les montagnes avec le tueur cannibale.
Moi, de toute façon, direct, je suis allée. Là où ça devait piquer.
Voilà.
Je me suis dit, autant y aller direct.
Oui, il y a des histoires qui sont. Alors tout finit bien. On est dans vraiment le feel good et le consentement. Je voulais partir un peu à l'opposé de la dark romance. Parce que je trouve que c'est important aussi des personnages qui communiquent, qui savent qu'ils veulent.
C'était un sujet que je voulais aborder avec toi, effectivement, là-dessus. Est-ce que tu penses que ton livre, il peut aussi se mettre un peu dans les mains de jeunes filles, notamment, qui sont attirés par la dark romance, ça leur, est-ce que, enfin, moi je l'ai utilisé un peu comme ça, j'avoue, en disant mais essayez ce livre-là.
Il y a des alternatives.
Mais ouais, c'est ça, c'est-à-dire que vous trouverez en fait le côté piment, le spicy, en fait, que vous cherchez dans des histoires de romance. Mais là, en plus, il y a vraiment autre chose, quoi. Vous vivez une aventure et tout. Enfin, ouais. Et il n'y a pas ce côté dark.
Oui, c'est un sujet de réflexion qui revient souvent parce que je fais pas mal d'interventions scolaires, notamment dans des lycées où on en parle, dans des bibliothèques, et arrive toujours le sujet de la sexualité des adolescents, jeunes adultes et la dark romance. Je pense qu'il faut le positionner comme alternative, en fait. Il est pas nunuche ce livre quand même, parce que l'héroïne explore quand même pas mal de kinks, hein, on va dire. Elle se pose des questions sur sa sexualité. Il y a un éventail LGBT. On peut finir avec autant des cow-boys que des jolies madames.
J'ai fini avec une jolie madame.
Voilà, jolie madame. Il y a même un personnage trans, et se poser la question comment on parle de la transidentité à l'époque western. Donc il y avait un petit peu cette exploration que je voulais offrir. Et puis oui, il y a des explorations de certaines pratiques sexuelles. Pareil, consentement, explication, discussion, communication. Mais j'espère que oui, il peut se poser en alternative à la dark romance, où parfois il y a quand même des relations d'emprise, de la toxicité, voilà. La dark romance, je pense qu'elle a son rôle, on pourrait en parler des heures sur c'est bien, c'est pas bien, à quoi ça sert, qui va lire ça, mais je pense qu'il faut proposer des alternatives, et j'espère qu'il va y en avoir d'autres, des livres un peu feel good, quoi. Voilà.
Et ce qui est intéressant aussi, ouais, c'est que tu réutilises comme un univers qui à la base est quand même vraiment le terroir un peu du masculinisme.
Oui, enfin, c'est macho.
Non, mais clairement, c'est que les westerns, tu vois pas plus de trucs où, ouais, où finalement les femmes sont pas du, oui, tout présentes, si ce n'est dans les saloons en train de.
Alors, je repense à des trucs genre Dr. Quinn, femme médecin. On a des séries, bon, qui étaient un peu nœuds, mais qui étaient quand même sympas.
Alors, il y a un super bouquin de, ouais, Marion Brunet qui s'appelle Sans foi ni loi.
Ouais.
Où là, c'est une vraie femme cow-boy, qui est, enfin, une cow-girl, du
d'accord,
coup, qui est hyper balèze, un peu. Un peu dark, et elle est géniale.
Ah, je connais pas. Du coup, c'est un peu réaliste.
C'est hyper réaliste,
d'accord,
en fait.
Ah, bah,
en fait,
voir,
elle, ouais, a tous les a priori du cowboy mec, okay, sauf que c'est une femme. Et ça, cool, change complètement la lecture, et elle le fait hyper bien. Enfin,
d'accord.
On connaît son talent, donc,
okay,
donc je te conseille,
non,
si
on
a tu l'as pas
parlé. Il va falloir que je lise. Oui, bah, il y avait un peu ce conflit. Enfin, Miss Jones, souvent quand elle rencontre des gens, comme c'est des gens plutôt bien intentionnés, ils admirent son courage, en fait. Elle-même, elle se lance pas tête perdue là-dedans. Elle a conscience que certains moments, elle va se mettre en danger. D'ailleurs, elle va rencontrer des dangers. Il faut pas qu'elle parte toute seule n'importe où, faire n'importe quoi. Mais il y a cette volonté de, je vais pas me laisser arrêter, en fait. Je crois que c'est ce côté vraiment, je vais pas me laisser arrêter. Sinon, à quoi bon vivre si on a peur de tout. Voilà. Avec quand même, en restant un peu raisonnable.
Bon, en tout cas, on vous conseille vraiment ce Reine de l'Ouest, publié chez Sarbacane. En plus, le livre est hyper beau. C'est vraiment une très belle maquette,
très
réalisée par Sarbacane. Et juste avant de finir, en fait, se quitter, tu avais aussi fait un autre livre qui travaille un peu sur le même principe, mais pour les plus jeunes.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous en parler deux secondes?
Ouais, Holly Osley, Le Manoir Maudit, qui est aussi chez Sarbacane, aux éditions Pépix. Donc c'est une collection qui est plus pour les 8-12 ans à peu près. Et ça reste un livre dont vous êtes le héros, alors beaucoup plus modeste. Ça reste même un livre dont vous êtes le personnage principal, puisqu'il est écrit au genre neutre. Donc qu'on soit une fille, un garçon, ou comme je dis, une licorne de l'espace, on peut lire le livre, ça ne change rien à la lecture.
Ah, c'est une bonne idée ça, je l'ai, ouais, pas encore, j'ai pas fait de lecture en tant que licorne de l'espace.
Techniquement, c'était intéressant à faire. Et donc le personnage principal, Holly, part en Bretagne, parce que ses parents ont gagné une croisière dans les îles tropicales sans Holly. Donc il va tout seul chez sa grande tante qu'il ne connaît pas, qui habite dans un manoir perdu au milieu de la Bretagne. Et dans ce manoir, il se passe beaucoup de choses, et il y a des personnages très étranges, et il y a une malédiction, et donc Holly va devoir résoudre la malédiction en rencontrant différents personnages. Alors, à une lecture, vous ne pouvez pas rencontrer tous les personnages, il faut le lire 2-3 fois pour avoir la chance de rencontrer tout le monde, et du coup il y a une dizaine de façons possibles de résoudre le problème de la malédiction du manoir.
Voilà. Trop bien, et voilà. J'ai cru comprendre que peut-être il y aurait d'autres...
Et en effet, avec Sarbacane, on est bien parti pour en faire d'autres dans le même genre, 3-4 à peu près. Je viens de rendre un manuscrit qui a peut-être un lien avec cette idée.
Trop bien. Voilà. Trop bien, trop bien. Bon, bah, nous on attend. En tout cas, merci beaucoup Hélène de nous avoir accordé un peu de ton temps.
Avec grand plaisir.
On sera à l'affût de tes prochains livres. Et puis, comme Reine de l'Ouest est dans plein de prix, bah, on te souhaite plein de prix à recevoir bientôt.
Je suis ravie qu'il plaise aux gens, quoi.
À bientôt.
À bientôt.
Et oui, c'était un plaisir de rencontrer Hélène Lenoir et de parler avec elle de Reine de l'Ouest, qui fait partie notamment de la sélection des prix sorcières. Donc on va voir s'il gagne d'autres prix, mais je vous le conseille, si vous voulez vraiment un livre dont vous êtes l'héroïne, original, un peu spicy, bienveillant, Que du consentement dans ce livre-là. Je vous conseille vraiment ce Reine de l'Ouest dache le noir. Allez, on se quitte parce qu'il est évidemment déjà l'heure, Véro. Ben, c'est passé tellement vite, Une petite BD quand même pour finir, comme d'habitude.
Ça ne souffre
pas. Surtout que c'est un deuxième tome d'une série que j'ai vraiment beaucoup aimée qui s'appelle « Quand la nuit tombe », publiée par Delcourt. On avait présenté le premier tome avec Lisou. Et là, cette fois-ci, on a le deuxième avec Mylène. Pour vous resituer, en fait, on est pendant la Seconde Guerre mondiale. On va suivre une famille. Dans cette famille, il y a deux sœurs, Lisou et Mylène. Mmh. Qui, à un moment donné, s'enfuient, enfin, partent dans la campagne pour se cacher, et puis les Allemands vont les retrouver. Et en gros, il y en a une des sœurs, Lisou, qui va s'en sortir, et Mylène, elle n'a pas cette chance, et donc elle part avec les Allemands. Donc, dans le premier volume, on avait vraiment l'histoire de Lisou qui attend sa sœur, qui ne sait pas ce qui se passe. Donc, c'est l'attente, c'est ce qui reste, et tout ça, et aussi sauver sa peau. Dans ce deuxième volume, on va voir l'histoire de Mylène. Alors c'est assez poignant, c'est assez fort, hein, c'est assez dur. Marion Achard, en fait, elle raconte l'histoire de ses tantes, donc c'est une histoire qui lui a été racontée par Mylène et par Lisou. Voilà, donc c'est très très fort, il y a beaucoup de documents aussi. Mais c'est mis en image par Tony Galmès qui arrive à donner beaucoup de douceur à tout cela. Voilà, donc c'est le diptyque est maintenant fini. C'est un très très belle BD que je vous conseille vraiment sur la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelle Quand la nuit tombe, deux tomes. Le tome qui sort là s'appelle Mylène, le premier s'appelait Lisou. C'est Marion Achard au scénario et Tony Galmès au dessin, publié chez Delcourt. Et bien voilà, nous on a un peu tout dit. On espère que vous avez passé une bonne émission. N'hésitez pas que toutes les émissions sont à réécouter sur le site de l'autre radio. Vous tapez On lit quoi nous avec un K et avec un N. Yes. Et vous pourrez toutes les retrouver. En attendant, on se quitte avec de la musique, évidemment, avec l'une des grosses stars du fond de la rue qui va venir. C'est Fatboy Slim, et oui, ce DJ anglais bien connu pour ses tubes, qui nous fait l'honneur de venir à Saint-Nid-Gatine. Donc on va écouter Prize You. On vous souhaite un bon mois, plein de belles lectures, que le monde aille mieux et que vous lisiez pour vous évader un petit peu. À bientôt. Merci Véro.
Au revoir.
Merci Philippe à la technique, comme d'habitude, maestro. Allez, au mois prochain.
To celebrate you, baby, I have to praise you like I should.
have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.